lettre d'avril de 1837, Baudelaire est en seconde, et il est manifestement entraîné spécialement pour le lire, c'est ce qu'il écrit, par un répétiteur qui lui a été attribué à lui, ainsi qu'à ses camarades, en vue du concours général. Et il ne comprend pas pourquoi le répétiteur le prend à part et lui demande si les répétitions l'amusent, et pourquoi on lui propose d'accéder à toute la bibliothèque du collège. Baudelaire ajoute « J'ai remarqué que si je fais de mauvais vers, il est très mécontent, et si je néglige le grec ou toute autre chose, à peine me le fait-il voir. » Baudelaire représente un cas intéressant de cette culture en serre chaude et de l'usage que l'institution scolaire faisait des jeunes poètes. Sainte-Beuve a été dans le même cas dans les années 20, et Rimbaud le sera lui aussi. Cette naïveté de Baudelaire vis-à-vis du fonctionnement de l'institution ne dure pas, et les lettres suivantes se font surtout l'écho de son angoisse du concours général. De ce point de vue, Baudelaire n'avait probablement pas les épaules ni le tempérament adapté à ce que Sainte-Beuve a appelé dans les mêmes années l'émulation sans moralité dans son cours sur Port-Royal dans les années 30, et qui constituait le fond de l'organisation de la discipline dans les collèges. Et l'épisode du renvoi de Louis le Grand, qui le conduit dans la pension de son répétiteur Lezègue jusqu'au bac en août 1839, est une conséquence anecdotique de cette pédagogie. Un détail qui m'a paru intéressant dans la scolarité de Baudelaire, tel que nous la livrent les lettres, c'est le récit d'une sortie de classe à Versailles, qui est organisée en juillet 1838, au cours de laquelle Baudelaire rencontre Louis-Philippe. Dans une lettre au colonel Hopic, Baudelaire raconte la visite du château et il ajoute des remarques sur quelques peintres, Horace Vernet et Delacroix notamment. Alors ce point est connu. Et ce qui est intéressant, c'est que Baudelaire adopte une posture critique moderne fondée sur l'idée d'impression. Il écrit « Je parle peut-être à tort et à travers, mais je ne rends compte que de mes impressions. » En opposant ses impressions à l'érudition, à une posture plus érudite, Baudelaire reprend à son compte un renouvellement critique qui est opéré dans la critique d'art dans les années 20 avec les salons de Stendhal, et qui est la, notamment autour de Horace Vernet et Delacroix, et la dette de Baudelaire envers Stendhal est manifeste dans le salon de 46. Cela aussi est connu, mais ce qui m'intéresse, c'est que l'idée d'impression ne vient pas forcément uniquement de Stendhal, et qu'elle était peut-être le cœur même du projet de cette visite scolaire à Versailles. En 1838, en effet, le sujet de vers latin de classe de 3e du concours général, c'est l'hospitalité royale à Versailles. Et on trouve aux archives nationales une réclamation de professeurs protestant contre les élèves qui avaient eu la chance de visiter Versailles, qu'ils jugeaient favorisés, car ils avaient retiré de cette visite, je cite leur réclamation, le sentiment de l'impression du lieu. Baudelaire n'avait donc pas trouvé l'idée d'impression uniquement dans les articles de critique d'art de la presse sur Delacroix, mais cette impression, cette idée que on pouvait se livrer à ses impressions, était également enseigné au collège. Est-ce que j'ai un peu de temps encore? Je peux donc évoquer une autre anecdote qui m'a intéressé et qui montre que Baudelaire comment Baudelaire sentait son époque. C'est dans une lettre, et qui me paraît aussi problématique, c'est dans une lettre de février 1839 au colonel Hopic. Baudelaire demande à Hopic de lui payer un répétiteur car il veut étudier la religion et l'esthétique et que son professeur de classe de philosophie n'aura probablement pas le temps de le faire. Pardon. D'une part, Baudelaire pointe les limites du programme de la classe de philosophie qui était un fourre-tout et qui prétendait enseigner à la fois des rudiments de science mais aussi la logique, la métaphysique, la morale et l'histoire des opinions du philosophe. Baudelaire nous rappelle aussi que la discipline de la philosophie sous la monarchie de Juillet était une discipline d'érudition et non de spéculation, c'est le sens de l'histoire des opinions des philosophes, et que son enseignement portait la marque, de l'héritage de Victor Cousin et de l'éclectisme, Victor Cousin étant alors à l'apogée de sa carrière politique. Il sera ministre de l'instruction publique en 1840. La philosophie telle que l'avait structurée Cousin était enseignée en 4 divisions, la psychologie, la logique, la théodicée et l'histoire de la philosophie. Or, Baudelaire, qui avait probablement soif de spéculation davantage que d'érudition, choisit comme répétiteur Charles Lezègue, un élève de Cousin, mais qui s'intéresse à la médecine expérimentale et positiviste de Claude Bernard, et qui deviendra aliéniste. Ça, c'est connu, mais
Je me suis demandé si Baudelaire avait senti le progrès de la philosophie et jusqu'où il fallait pousser cette analyse. Est-ce qu'on sait pourquoi Baudelaire a insisté pour avoir le zègue et pas un autre comme il le fait dans sa lettre? Je ne sais pas si Baudelaire était conscient de s'inscrire dans une évolution. Ce qui permet de nuancer cette idée, c'est que dans la lettre au colonel Opic, Baudelaire insiste surtout sur la nécessité de se mettre au grec et qu'il ajoute un couplet assez convenu sur l'ignorance du collégien en fin de cycle. Il écrit: « Je me suis demandé ce que je savais, un assez grand nombre de choses sur tous les sujets, mais vagues, brouillées, sans ordre, se nuisant mutuellement, rien de clair, de net, de systématisé, ce qui revient à dire que je ne sais rien. Ce couplet est un lieu commun du discours sur l'enseignement secondaire, notamment sous la monarchie de Juillet, où les humanités sont censées être en crise. » Voilà pour les deux anecdotes scolaires. Alors, rapidement, on trouve encore dans les lettres de jeunesse le Baudelaire fin manœuvrier de Jacques Crépet, dans sa façon qu'il a d'avouer sa paresse, dans sa façon qu'il a de faire du chantage affectif à son frère en le lui disant et en se le reprochant, ou quand il dit qu'il revient de son voyage avec la sagesse en poche. On trouve aussi des preuves de son éveil à la littérature, le sonnet d'Étrennes poétiques en décembre 40, une indolence poétique qu'il confesse à sa mère, et ça c'est le corpus de Catherine Delonce, donc je lui laisserai en parler, et dès les premières lettres, ce petit morceau de bravoure qui est connu et qu'il adresse à son frère dans une lettre du 1er février: « Nous montons dans la diligence, nous partons enfin. Pour mon compte, dans le premier moment, j'étais de fort mauvaise humeur à cause des manchons, des boules d'eau, des chancelières, des chapeaux d'hommes et de femmes, de manteaux, des oreillers, des couvertures, à force, des bonnets de toutes les façons, des souliers, chaussons fourrés, bottines, paniers, confitures, haricots, pain, serviettes, énormes volailles, cuillers, fourchettes, couteaux, ciseaux, fils, aiguilles, épingles, peignes, robes, jupons, à force, bas de laine, bas de coton, corsets les uns par-dessus les autres, biscuits pour le reste, je ne puis me le rappeler. » Et puis plus loin, le jour étant tombé, je vis un bien beau spectacle, c'était le soleil couchant. Cette couleur rougeâtre formait un contraste singulier avec les montagnes qui étaient bleues comme le pantalon le plus foncé. Ayant mis mon petit bonnet de soie, il a écrit deux fois le mot, je me laissais aller sur le dos de la voiture et il me sembla que toujours voyager serait mener une vie qui me plairait beaucoup. Je termine par quelques questions soulevées à la lecture de ces lettres et qui ne font pas l'objet de notes dans la Pléiade et pour lesquelles je fais un appel au savoir dans l'assistance. Il y a un alexandrin non élucidé dans une lettre. Il est un juste orgueil que l'on passe au mérite. Je me suis demandé en lisant les lettres de la période lyonnaise ce que Baudelaire pouvait savoir des Saint-Simoniens en costume, c'est ainsi qu'il les décrit, qui sont cités dans deux lettres de mars et de mai 1833. Et je me demandais si l'on n'en savait plus aujourd'hui sur le rapport entre Baudelaire et Ernest Praron et du petit cénacle qu'ils étaient censés former avec Gustave Levavasseur au début des années 40. Ernest Praron, dans une introduction à un poème latin qu'il publie en 1907, écrit en 1843: « Hélas, nous datons de loin, nous étions quelques-uns aussi près déjà de la Pléiade de 1560 que de la levée romantique de 1830. Sans être les disciples de Dora, nous aimions les Latins, nous avions encore que du respect pour les Grecs, n'étant sortis de nos études assez forts que pour goûter. » Alors je reprends. Nous n'avions encore que du respect pour les Grecs, n'étant sortis de nos études assez forts pour goûter Théocrite autrement que par Virgile. La Renaissance française du XVIe siècle pratiquait les deux langues mères, nous nous en tenions à la plus jeune. Baudelaire mesurait de la prose rimée d'église pour une Francisca demeurée une iris voilée. Le Levavasseur se plaisait aux différents rythmes des lyriques. J'imposais à l'alternance facile des élégiaques des fantaisies que j'ai perdues. » Et deux questions pour terminer sur les manuscrits. Je me demandais où étaient passées les archives Praron, qui étaient. Tu le sais? Ok, et qu'était devenue la librairie Ronald Davis de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Voilà.
La réponse immédiate.
Pour les archives, Praron n'a pas eu d'enfant, Mais il a eu des neveux et.
C'est Michel Praran, c'est ça ?
Non, c'est Ernest. Ah,
oui, mais les archives étaient posées par Michel Praran.
Je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, Claude Pichois a connu un monsieur Henri Praran, qui était un petit neveu ou un arrière-petit-neveu d'Ernest Praran, et qui lui a communiqué des lettres. Alors, je ne sais plus s'il lui a communiqué ou s'il a communiqué simplement les manuscrits. Par ailleurs, Praron, qui était un très grand érudit, était un historien d'Abbeville et de la région d'Abbeville, a légué ses archives à la bibliothèque d'Amiens. Elles sont, enfin, les archives, toutes les notes, tout ce qui est manuscrit, est conservé à la bibliothèque Louis Aragon d'Amiens. Il y a aussi des archives à Abbeville, la bibliothèque de recherche d'Abbeville. Alors ça, je les ai un peu regardées. Ce sont des éléments de correspondance. Notamment avec des érudits locaux, c'est pas pour nous, enfin pour Baudelaire en tout cas, ça ne représente pas un très grand intérêt. Claude Pichois et Vincent Pichois ont exploré les importantes archives d'Amiens, ils sont allés sur place, ils ont pris nombre de notes que l'on peut lire maintenant dans les archives de Claude Pichois qui sont à la BHVP.
D'accord.
Voilà, alors je les ai, je dois dire, je les ai un peu explorés, notamment pour Praron, parce que je suis en train de préparer un corpus de lettres sur Baudelaire entre 1866 et 1871. Et pour ce faire, j'ai un peu exploré les archives léguées par Claude Pichois à la BHVP. Pour l'instant, elles ne sont pas inventoriées, donc en fait, j'ai été obligée d'aller un peu à la pêche, de demander est-ce qu'il existe un dossier Praron, est-ce qu'il existe un dossier Le Vasseur, etc. Le dossier Praron est très riche, très intéressant.
Alors, on vous l'a dit, donc moi j'ai travaillé sur Baudelaire et l'estampe, et donc m'a été confiée l'édition de lettres écrites par Baudelaire à des artistes, et plus particulièrement à des graveurs. Donc vous voyez, à Charles Merion en 1860, à Félix Braquemont en 61, à Alphonse Legros en 62, à Henri Fontenay-Latour en 1864. Alors, une des particularités de ce tout petit corpus, hein, quatre lettres, c'est qu'à ma connaissance, les autographes de ces lettres n'avaient pas été reproduits avant leur édition dans la Pléiade par Claude Pichois et Jean Ziegler, et les autographes ne l'ont pas été non plus depuis. Ces manuscrits ne sont pas reparus en vente, à ma connaissance, ni dans d'autres circonstances, sauf celui de Fantin, entré à la Fondation Custodia en 1997. D'ailleurs, le texte lui-même de la lettre de Merion n'est pas connu, seulement son existence par regroupement. Donc, dans la Pléiade, il y a seulement un témoin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc, sur mes quatre lettres, trois ne sont connues que pour leur texte, la suscription, la date, etc., mais pas l'autographe. Alors, autre particularité de ce tout petit corpus, ces lettres ne font pas partie de corpus plus larges. Chacune d'elles est l'unique lettre connue de Baudelaire à ce destinataire. Donc, une lettre à chacun, aucun apport dans les nouvelles lettres, ni ailleurs, toujours à ma connaissance, évidemment, tout ça a pu m'échapper. C'est donc le contraire des corpus des lettres de Baudelaire à sa mère ou à Narcisse Ancel que Catherine de Lens édite, et même très différent des petits corpus de lettres à Delacroix ou à Manet, puisque ce sont des lettres vraiment isolées, ces quatre lettres sont isolées. Deux de ces lettres que j'ai dites nous ont été conservées par des marchands promoteurs des artistes en question, Jacques Templer pour Fontin, et Clément Janin pour Le Gros. Alors, d'abord, au risque de surinterpréter le caractère isolé de ces lettres adressées à des artistes que Baudelaire a beaucoup fréquenté dans les années 1859-1864, je dirais que c'est peut-être pas un hasard qu'aucune lettre de Baudelaire à Merion n'ait pour l'instant réapparue, étant donné la précarité matérielle dans laquelle vivait Merion, étant donné sa folie, étant donné également la précarité matérielle qui était celle de Le Gros au moment où il a été très lié à Baudelaire, entre 1859 et début 1863. Donc ce sont des lettres à des outsiders, à double titre, comme artiste émergent d'abord, et puis comme graveur. Alors évidemment, le cas de Fantin-Latour me retient de pousser plus loin ce genre d'observation, concernant la maigreur du corpus des lettres à graveur. Puisque Fantin est un peintre déjà bien en cours en 1864, il a une vie extrêmement rangée, il a une très copieuse correspondance dont une partie est éditée numériquement aujourd'hui, des lettres qui datent de 1858. Donc probablement pour Fantin, c'est simplement, il n'y a qu'une seule lettre parce que Baudelaire et Fantin se sont connus tard, je pense, et puis il me semble qu'ils n'ont pas été intimes. Donc, contrairement à certains de mes coéditeurs qui se réfèrent à des autographes, je me suis contentée de recourir 3 fois sur 4 à des éditions de la correspondance de Baudelaire. Alors, les lettres en question ont parfois été publiées dans la presse généraliste d'entre les deux guerres, qui s'intéressait aux inédits des auteurs classiques. Puis, donc, ils ont été publiés dans la correspondance générale par Jacques Crépet, entre 1948 et 1953, et puis dans la Pléiade en 1873 par Claude Pichois et Jean Ziegler. Alors moi je suis complètement novice dans l'édition, et a fortiori dans l'édition de correspondance. Donc je vais enfoncer vraiment les portes ouvertes. Alors Candide, je me suis d'abord reportée à la Pléiade, en m'efforçant de suivre le protocole que nous avaient donné nos deux directeurs. Alors, tout de suite, il y a quelque chose qui m'a paru louche, c'est que dans la Pléiade, la signature de Baudelaire est en petite capitale, lesquelles correspondent normalement au double soulignement. Et puis, lors d'une précédente séance du groupe, mon attention a été attirée par une remarque de Catherine Delance, qui a l'expérience d'éditrice de la correspondance, et qui a dit « oui, il faut être très attentif aux notes de la Pléiade, lesquelles renvoient assez souvent à la correspondance générale, dont elles diffèrent pourtant souvent ». Alors en fait, tout s'explique, j'ai fini par comprendre que tout s'explique dans les pages 21-22 du tome 1 de la Pléiade, où donc, dans la 21-22 en chiffres romains, donc là c'est vraiment des portes ouvertes, les éditeurs expliquent les autres points où la transcription typographique diverge de l'aspect des autographes et où sont détaillées les normalisations imposées par Gallimard en matière de place des dates, de la signature toujours en petite capitale, des titres toujours en italique, de la linéa, des abréviations, etc. Alors j'en ai conclu donc que pour être le plus fidèle possible à un autographe qui n'est pas connu, il y a au moins un triple fond d'édition à consulter. Premièrement, le texte de la Pléiade. Deuxièmement, les notes de la Pléiade où sont signalées les particularités différentes et supplémentaires encore aux normalisations signalées page 21-22. Il faut également, bien sûr, il me semble qu'il faut aussi se reporter à la correspondance générale de Jacques Crépet en contrepartie pour 2 choses. D'abord pour le texte lui-même, parce que je pense que la Pléiade n'est pas complètement exempte de bizarrerie ou de coquille. Et deuxièmement, pour vérifier si les normalisations dont il est question dans les pages 21-22 ont joué ou pas, parce que parfois elles ne jouent pas. Alors, je vais prendre une étude, je vais faire une petite étude de cas, et je vous montre ceci. Donc, je prends un cas limite d'une lettre à un artiste, c'est la lettre qui n'existe pas, c'est le témoin de la lettre de Baudelaire à Merlin. Alors, c'est une sombre affaire. On sait que, ça c'est un petit peu complexe, on sait que Baudelaire a écrit à Merlion, qui ne figure pas dans la table des destinataires de la Pléiade, son nom ne figure pas. On sait que Baudelaire a écrit à Merlion parce qu'il l'écrit à Philippe Burti. Philippe Burti, qui était le futur immense critique d'art, lequel Philippe Burti cherchait à se procurer la lettre écrite par Victor Hugo à Baudelaire le 29 avril 1860. Donc, et Baudelaire ne donne pas cette lettre de Hugo à Burti, vous lisez ce qu'il lui répond. Il lui répond, il était question de mes articles critiques, des dessins d'Hugo lui-même et enfin de M. Merlion. Ces dernières lignes ont été transcrites par moi et envoyées à Merlion. Alors, comme la lettre de Hugo à Baudelaire date du 29 avril 60, la transcription de Baudelaire doit effectivement dater, comme l'a fait la Pléiade, de mi-mai 1860. Hein, donc, c'est de la page 43 que vous avez en haut du tome 2. Et vous voyez aussi une curiosité, puisque ici, le témoin renvoie à la lettre à Burti du début de mai 63, et la seule lettre à Burti qui figure dans la Pléiade, c'est 1861-1862. Donc il y a une incohérence. Alors, pourquoi renvoyer à une lettre en disant qu'on présume de 63, et puis ensuite dire dans le corps du texte qu'elle date de 61-62, enfin, disons, la dater en gros de 61-62. Alors en fait, le renvoi pour la lettre à Merion suit la datation adoptée par Crépet dans le tome 6 de la correspondance générale. Alors Crépet avait tiré une conclusion, il avait dit, bon, il avait pensé, Burti a publié le catalogue raisonné de Merion dans la Gazette des Beaux-Arts en juin 63, donc la lettre à Merion doit dater de mai 63. Bon, voilà. Crépet est arrivé à cette conclusion. Et donc, bon, c'est le premier élément. Deuxième élément, ensuite, Claude Pichot et Jean Ziegler datent la lettre de 61-62. Alors pourquoi? Parce que Pierre Georgel, qui était spécialiste de Victor Hugo, a publié en 73 une chronologie de la correspondance Burti-Hugo qui prouve que le catalogue de Merion était prêt très tôt, bien avant décembre 62. Et donc je pense que l'information venue de Georgel a été intégrée dans la précipitation au moment de la fabrication de la Pléiade, et donc il n'y a pas eu d'harmonisation entre les deux datations. Et puis ensuite, la réimpression n'apporte, je crois, il me semble que la réimpression de 99 n'apporte aucune correction. Alors en fait, Georgel ne connaissait pas une autre lettre écrite par Victor Hugo à Burti le 26 juin 60, dans laquelle Hugo conseillait à Burti de demander à Baudelaire une copie de sa propre lettre du 29 avril 60. Donc, en fait, la réponse de Baudelaire à Burti, que vous avez, la deuxième ici, date beaucoup plus probablement, beaucoup plus tôt, et de juillet 1860 à peu près, beaucoup plus tôt que le dit la Pléiade, puisque bon, Burti écrit à Hugo. Hugo répond à Burti en disant adressez-vous donc à Baudelaire. Burti le fait, et Baudelaire lui répond en disant non, j'ai pas ma lettre, etc. Donc, que tirer de cette affaire? Alors d'abord, pour moi, une question. Crépet a fait le choix, il le dit dans la note de la lettre à Burti. Crépet ne met pas de témoin. La Pléiade en crée un. Moi, j'en ai provisoirement créé un. Donc, voilà, il faudra me dire ce que je fais. Autre remarque, quelque chose que j'ai souvent pensé, c'est que dans ce cas, la lettre de Hugo, il me semble, est conçu par Baudelaire comme un objet donné ou refusé. Baudelaire n'est pas amateur d'autographes, contrairement à Poulet-Menassy, à qui il donne des autographes, mais le ton de la réponse de Burti, moi, me met un peu la puce à l'oreille. C'est sûr qu'il n'a pas la lettre de Hugo sous la main, elle est probablement à Alençon, puisqu'elle a été publiée plutôt en rapport avec Poulet-Menassy, mais Baudelaire ne propose absolument pas de la faire copier, il ne propose pas non plus à Burti de s'adresser à Poulet-Menassy. En fait, Burti et Baudelaire sont déjà rivaux depuis 6 mois, ils sont déjà rivaux tous les deux, auprès de Merion. Il me semble que le don ou le refus de lettre est une stratégie, et que pour Baudelaire, la lettre est un objet avec sa matérialité. Et je me demande ce que va faire celui d'entre nous qui va éditer une lettre sur laquelle je suis passé beaucoup de temps, qui est cette fameuse lettre où il découpe un extrait de Poulet-Menassy, il colle l'extrait de Poulet-Menassy dans sa propre lettre, pour dire à Poulet-Menassy, en gros, vous êtes un imbécile. Et ça me fait penser à ce qu'André Guyot écrit dans une des éditions des textes sur la Belgique, où il dit que Baudelaire découpe les articles de la presse comme, je ne sais plus le terme, accusation contre la Belgique. Et cette pratique, voilà, il me semble qu'il y a quelque chose, un indice dans ce refus. Voilà, à Burti, on est rivaux, je ne vous donne pas la lettre à Hugo. Quelque chose vraiment de la conception de la matérialité de la lettre. Alors, autre remarque d'ordre biographique. En travaillant sur mon sujet Baudelaire et l'Estampe, j'ai été frappée par l'extraordinaire activisme de Baudelaire qui cherche toujours ou qui se fait réellement l'agent de X ou Y pour mettre en relation les artistes, les marchands, les collectionneurs. Donc, ce qu'on a appelé d'un certain moment un comportement de critique influent. J'ai tendance à penser que les correspondances d'écrivains du XIXe siècle sont de vraies sources pour l'histoire de l'art, qu'ils les négligent un peu, parce que, en général, les historiens de l'art s'occupent plutôt des articles, des choses publiées. Donc, j'ai tendance à dire que c'est un petit peu négligé par l'histoire de l'art, mais d'un autre côté, l'intrication de certaines lettres de Baudelaire avec celles de ses amis ou avec ses relations artistes aboutit à des problèmes de datation et parfois même de teneur de la lettre. Parce que les incertitudes de l'histoire de l'art viennent redoubler celles de la chronologie baudelairienne pour arriver à un résultat qui est vraiment flottant du point de vue de la chronologie et parfois du point de vue de la teneur. Là, Jean-Gel dit quelque chose qui est exact mais qui est incomplet, bon, et puis on découvre encore autre chose, et il faut rectifier. Alors, j'ai un autre exemple, et je veux dire que ça fait quand même 2 cas sur 4, me concernant. C'est la lettre à Fantin. Alors, voilà, c'est la lettre à Fantin que vous avez sous les yeux. Elle est datée du 22 mars 64. De nouveau, Baudelaire agit en critique influent, puisqu'il signale à Fantin qu'il a recommandé à Philippe de Chenevière les envois de Fantin pour le salon. Donc, comme toujours, Baudelaire cherche à dire, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour vous, etc. Et à cette lettre est jointe, en fait, et probablement collée, j'allais voir vraiment si c'est jointe ou collée, une liste de noms de la main de Baudelaire que vous avez au tableau. Et cette liste est annotée par Fantin de Baudelaire pour mon tableau à Delacroix. Alors Jacques Crépet, dans la correspondance générale, suggérait que cette note était en rapport avec un projet conçu par Fantin, un projet d'un tableau qui se serait intitulé « Delacroix reçu aux Champs-Élysées ». Alors, le Delacroix, voilà, « Delacroix reçu aux Champs-Élysées », dont le premier dessin est daté de novembre 65. Mais, dans la Pléiade, Claude Pichois a suivi une vague suggestion, sans aucune référence précise, d'un historien de l'art du tout début du XXe siècle, et suggestion qu'on n'ose maintenant plus démentir, et qui suggère que ceci serait associé à une première idée de l'hommage à Delacroix, et les premiers dessins d'hommage à Delacroix datent de septembre 1963, donc beaucoup plus tôt. Donc, à mon sens, voilà, le rapport avec l'histoire de l'art, je dirais qu'il arrive que l'histoire de l'art embrouille les choses, et ben, disons, le rapprochement avec l'histoire de l'art peut embrouiller les choses, et qu'il faut vraiment faire bien attention. Alors pour finir, je vais revenir à la position de Baudelaire par rapport aux artistes. Donc les lettres qu'il leur écrit sont très souvent en rapport avec cette position de critique influent, que Baudelaire était effectivement dans le domaine de l'estampe, et qu'il aspirait peut-être à être dans d'autres domaines, en particulier en peinture. Donc il se fait l'intermédiaire avec d'autres hommes publics, et il écrit en rapport avec quelque chose que j'appellerais des événements d'art. Alors ça peut être des publications, des expositions, enfin toutes sortes de choses. Et ces lettres sont pleines de connexions avec d'autres choses. L'exemple de la lettre à Burti, c'est typique. C'est vraiment un vrai nœud de plein de choses qui se passent sur cette lettre. Pour les élucider, pour illustrer ces lettres, et peut-être que ce serait bien de pouvoir se référer à d'autres correspondances électroniques. Je pense à celle de Fantin, à celle de Whistler, par exemple, qui est vraiment que j'ai beaucoup utilisée, qui est extrêmement, extrêmement facile d'utilisation, et avec plein de rubriques assez... C'est aussi un bottin, la correspondance de Whistler. Et Baudelaire se référait aussi à des œuvres. Par exemple, dans sa lettre à Braquemont, il est en train de caler ses séances de pause pour le portrait frontispice de la deuxième édition des Fleurs du Mal. Dans sa lettre à Alphonse Le Gros, il parle de deux portraits de Hugo, le premier par Paul Chenet et le deuxième par Le Gros. Et puis dans la note pour Fantin, la note pour Fantin est probablement une suggestion pour le Delacroix reçu aux Champs-Élysées. Ces images se trouvent en général, de façon complète ou non, mais se trouvent en général dans des institutions publiques. Et je me dis que ça serait peut-être aussi une bonne chose, enfin, que ça serait peut-être aussi bien de rattacher l'édition électronique de la correspondance par des liens, par des hyperliens, vers d'autres correspondances numériques et aussi vers les banques d'images. Voilà.
Merci, Merci. Pierre. Ça fait certainement partie de mes intentions.
Se servir à les hyperliens dans la notation, effectivement.
D'accord. Il y a de la place.
On a de très nombreuses ressources auxquelles renvoyer. Merci de Delon, ça vous parlait de lettres de Baudelaire à sa mère.
Alors, mon corpus est constitué essentiellement, mais pas uniquement, des lettres de Baudelaire à sa mère. Et c'est un ensemble très important. C'est l'ensemble le plus important de lettres adressées à un même, et en l'occurrence, une même destinataire. Il y a 350 lettres adressées à Caroline Opic qui ont été retrouvées. Je ne sais pas si on peut encore en retrouver d'autres. Alors, ce corpus est aussi très intéressant parce qu'il couvre quasiment toute la vie de Baudelaire. C'est vrai que les lettres adressées à Alphonse Baudelaire, les premières lettres sont antérieures. Mais néanmoins, la première lettre connue de Baudelaire à Madame Opic est datée hypothétiquement du 6 février 1834. Et Baudelaire n'a pas encore 13 ans. Et la dernière lettre est dictée le 30 mars 1866, exactement la veille du jour où Baudelaire va faire son accident cérébral qui le laisse hémiplégique et aphasique. Autre caractéristique de cette correspondance, c'est la correspondance la plus intime de Baudelaire, la plus privée, la plus passionnée, la plus douloureuse. Baudelaire veut se livrer, se dévoiler tout entier en écrivant à sa mère pour être entièrement connu et aimé d'elle. Et il fait parfois, pas toujours, mais parfois, de véritables examens de conscience. Il se livre à des confessions, parfois des confessions douloureuses, approfondies, voire rigoureuses, comme s'il procédait à un exercice spirituel. Et on peut penser que ce volet privé reflète un petit peu ce que Baudelaire envisageait de faire pour le grand livre de confessions auquel il rêvait, Mon cœur mis à nu, dont nous avons quelques fragments, mais qu'il n'a pas pu réaliser. Donc on peut peut-être mettre en parallèle les lettres à sa mère avec ce projet. L'autre corpus dont j'ai à m'occuper, relativement important, ce sont les lettres adressées à Narcisse Ancel. J'en ai compté 74, je me suis peut-être trompée, mais enfin il y en a, en tout cas c'est de cet ordre-là. Narcisse Ancel, donc nommé conseil judiciaire de Baudelaire le 21 septembre 1844, son rôle auprès de Baudelaire a largement excédé celui de mentor financier ou de gestionnaire du patrimoine qui restait à Baudelaire. Et étant donné que toute décision concernant Baudelaire, concernant les dettes, concernant les prêts à lui accorder ou non, tout ceci passait par Madame Opic, c'est-à-dire que Madame Opic et Ancel correspondaient incessamment au sujet de Baudelaire, on peut dire que le drame social qu'a vécu Baudelaire, qui n'était pas seulement un drame financier, un drame matériel, avait trois principaux protagonistes qui étaient Baudelaire lui-même, sa mère et Narcisse Ancel. Et en ce sens, on peut voir dans cette correspondance une extension, si je puis dire, du domaine privé et intime. D'autant plus que Baudelaire traçait, séparait, cloisonnait un peu les domaines de sa vie, et que les amis de Baudelaire, les très proches amis de Baudelaire, n'ont été au courant du fait de l'existence de son conseil judiciaire que lorsque Baudelaire est tombé très malade à Bruxelles. J'ai encore à m'occuper des 28 lettres adressées par Baudelaire à Eugène Crépet, toutes consacrées aux notices que Baudelaire écrit pour l'ouvrage Les poètes français dont Crépet est le maître d'œuvre. Lettre écrite entre 1859 et 1861, près ou 62, je ne sais plus. On sait que les relations entre les deux hommes n'ont pas été bonnes, que Eugène Crépet va refuser 3 des notices sur les disques que Baudelaire va écrire. Et je m'occupe encore, enfin j'ai encore une lettre adressée à Émile Deschanel, l'unique lettre retrouvée à ce jour, et publiée très tardivement, révélée tardivement plutôt par Claude Pichois dans les Nouvelles Lettres en 2000. Alors cette lettre de 1865, c'est un court billet en fait, où Baudelaire demande à Deschanel s'il a bien reçu ses ouvrages des traductions de Poe, et il lui demande où il a parlé, dans quel article il a parlé des fleurs du mal. De tout cet ensemble, la correspondance connue le plus tôt, ce sont les lettres à Narcisse Ancel. Des fragments en ont été intégrés par Eugène Crépet dans l'étude biographique qui précède son édition d'œuvres posthumes et de correspondances dans son ouvrage de 1887, œuvres posthumes et correspondances inédites précédées d'une étude biographique. Eugène Crépet avait été en relation avec Narcisse Ancel et avait eu accès à ses archives. Plus tard, Félix Gautier publie en revue diverses lettres de Baudelaire, dont les lettres à Narcisse, des lettres à Narcisse Ancel à partir de 1902. Il publie en 1906 au Mercure de France un volume de lettres, 342 lettres en tout. Vous voyez que c'est moins que l'actuel corpus de lettres à Madame Aubic. Donc 342 lettres en tout, tous destinataires confondus et connus à l'époque. Jacques Crépet va bien sûr intégrer tous ces éléments dans sa correspondance générale entre 1947 et 1953. Les lettres à Eugène Crépet ont été connues bizarrement assez tard, finalement. Elles ont été révélées par la correspondance générale. Et dans la Pléiade, Jean Ziegler et Claude Pichois indiquent en note, font l'historique de chaque lettre en indiquant les principales étapes de collection ou de publication, et c'est ainsi qu'on peut apprendre que les lettres à Eugène Crépet, pour beaucoup d'entre elles, faisaient partie de la collection Gaudois. Alors quant aux lettres adressées à Madame Aubic, elles ont été connues progressivement à partir de 1917 seulement. Les lettres à Madame Aubic, après la mort de Madame Aubic, ont été transmises à Félicité Baudelaire, donc veuve d'Alphonse, demi-frère de Charles. Félicité Baudelaire va vendre en 1890 à Calmann-Lévy le droit à la reproduction de ses lettres, non pas les autographes qu'elle conserve, mais simplement le droit de reproduction. Elle va charger un de ses voisins, un ami, elle habite Fontainebleau, elle a un voisin qui s'appelle Adolphe Chabouillet, qui est un ancien professeur de lycée, et qui va faire une copie d'un certain nombre de ses lettres, va en proposer une édition à Calmann-Lévy. Cette édition va être reportée parce que Calmann-Lévy se méfie des réactions possibles, étant donné que Baudelaire incrimine dans ses lettres un certain nombre de personnes qui étaient encore vivantes. Ce monsieur Chabouillet a précédé l'édition qu'il prévoyait d'une introduction biographique, à caractère biographique. Visiblement, il ne connaît pas grand-chose à Baudelaire, et visiblement, les éléments biographiques qu'il donne ont été, il les tient de Félicité elle-même. Quoi qu'il en soit, cette publication n'existera pas. Et en 1917, pour le cinquantenaire de la mort de Baudelaire, la Revue de Paris commence en quelques livraisons à donner un certain nombre de lettres de ce projet Chabouillet. Ça sera 130 lettres. Alors pourquoi si tard? Parce que même jusque-là, on considérait qu'il n'était pas question de livrer à la curiosité publique des lettres aussi privées, aussi intimes. Notamment, Catulle Mendès s'opposait farouchement à la divulgation de ces lettres. Quelques éléments néanmoins avaient été connus préalablement. C'était des fragments de lettres recopiés par Madame Aubic dans des lettres qu'elle adressait à Narcisse Ancel. Malheureusement, nous n'avons pas les lettres de Madame Aubic à Baudelaire. Nous avons un certain nombre de lettres de Madame Aubic à Narcisse Ancel. Et dans quelques lettres, elle recopie plus ou moins fidèlement des passages de lettres de Baudelaire. Les lettres de Madame Aubic à Ancel antérieures au 31 mars 1866, je les ai reproduites dans mon édition chez Manutius, chronologiquement, intercalées chronologiquement entre les lettres de Baudelaire. Alors, Jacques Crépet va reprendre les lettres publiées par la Revue de Paris Il va les éditer en 1918, après les avoir revus d'après les originaux que conservait la descendance indirecte de Narcisse, de Félicité, pardon, les neveux de Félicité, sous le titre « Lettre inédite à sa mère ». Il va avoir accès à de nouvelles lettres, aux originaux de nouvelles lettres qu'il va publier en 1926, sous le titre « Dernière lettre inédite à sa mère ». En 1926, il édite à part les 6 lettres écrites le 27 février 1858 par Baudelaire à Madame Opic sur Narcisse Ancel. C'est la grande colère de Baudelaire qui est furieux parce que Narcisse Ancel est venu interroger son maître d'hôtel, lui posant des questions indiscrètes sur sa vie. Et ces lettres, la colère qui explose dans ces lettres est tellement virulente qu'on avait jugé ces lettres absolument impubliables. Et Jacques Crépet s'en explique dans une préface très amusante sous forme de pièces de théâtre, car Jacques Crépet écrivait aussi des pièces de théâtre. Alors Jacques Crépet va reprendre tous ces éléments, plus 42 nouvelles lettres demeurées inédites dans sa correspondance générale. Alors, dernier ensemble révélé tardivement, en 1966, un corpus révélé par Philippe Auxerve, son ouvrage « Lettres inédites aux siens », corpus constitué de lettres de jeunesse adressées à Alphonse Baudelaire, une lettre adressée à Jacques Opic et 46 lettres adressées à Caroline Opic. La Pléiade, bien sûr, reprend le tout en 1973 et depuis, il n'est apparu aucune lettre de Baudelaire à Madame Opic. Alors, l'édition que nous avons la chance, à laquelle nous avons la chance de travailler, c'est une édition autant que possible diplomatique quand nous disposons des originaux, enfin d'une image des originaux. Et c'est une bonne chose parce que la transcription ne peut pas, bien sûr, tout rendre. Alors, parmi les éléments que la transcription ne peut pas tout rendre, bien sûr, vous avez l'impression produite par les surcharges, par la pression, par la densité, le mouvement de l'écriture. Vous avez la modification de l'écriture à travers les années, les modifications dues aux circonstances, à l'humeur, les conditions dans lesquelles s'écrit la lettre. La lettre que je vous montre ici, c'est une lettre à Madame Opic datée du 22 décembre 1865. Je vous la montre parce que c'est une lettre type, à mon avis, d'un point de vue visuel. Vous voyez que c'est extrêmement surchargé, raturé, que l'écriture remplit quasiment toute la place et que s'il y a un blanc, c'est parce que Baudelaire a repris sa lettre un jour plus tard. Alors, petit détail qui peut, disons, faire réfléchir les éditeurs, vous voyez en bas, vous voyez ce que Baudelaire a souligné et écrit en caractère beaucoup plus gros que les autres, ce qui m'est dû. Alors, que dit Baudelaire là? Il dit « Je soutiens que Paris n'a jamais été juste envers moi, que jamais on ne m'a payé en estime non plus qu'en argent ce qui m'est dû. » Voilà. Alors, qu'ont fait Jean Ziegler et Claude Pichois? Ils ont écrit ceci en petites capitales, les petites capitales étant normalement réservées aux soulignements multiples. Jacques Crépet, lui, a écrit ceci en grandes capitales. Personnellement, j'ai repris ce que avait fait la Pléiade tout en m'interrogeant parce que ça ne me paraissait pas être tout à fait convenir exactement. Et le fait de pouvoir montrer l'autographe est une chance. Alors, je vous disais que l'écriture évoluait forcément à travers le temps. Et ici, nous avons une lettre de Baudelaire presque enfant. Que Jean Ziegler et Claude Pichois datent de soit 1834 soit 1835, on ne sait pas. Ça veut dire que Baudelaire a entre 13 et 14 ans. Vous voyez que l'écriture est sensiblement différente de l'écriture précédente qui datait de 65. Et vous voyez aussi la signature, les deux traits parallèles de part et d'autre de trois points. Alors ceci est une imitation de la signature de Madame Opic. D'après les photocopies d'originaux que j'ai pu consulter des lettres de jeunesse de Baudelaire, j'ai vu que ce signe apparaissait, d'après les originaux que je connais, trois ou quatre fois, peut-être un peu plus, quatre ou cinq fois, pas plus. Ça veut dire que Baudelaire, entre 12 et 16 ans, n'utilise pas toujours ce signe, mais parfois, il la pose sous son nom ou bien sur l'enveloppe elle-même. Alors, voici la signature de Madame Opic, signature type. Hein. Madame Opic, c'est bien net, bien visible, c'est deux traits avec ses quatre points entre les deux traits. Madame Opic, systématiquement, presque systématiquement, utilise cette signature avec ses, agrémentée de ce signe. Alors, ça fait penser à un signe maçonnique. Mais en fait, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi Madame Opic a utilisé de façon tellement ostentatoire, ostensible ce signe. Bon, là, je crois que ça nous entraînerait trop loin de parler de l'entourage maçonnique de Jacques Opic, de François Baudelaire, etc. Le seul indice que j'ai, je n'ai pas l'image ici, mais j'ai une lettre de jeunesse de Jacques Opic cette fois, adressé à son ami Aymon, où la signature de Jacques Opic s'entoure d'un paraphe invraisemblable avec des tas de points, notamment les deux barres et les trois points. Jacques Opic ensuite aura une signature très sobre, très ordinaire, disons. Et j'ai essayé de mener l'enquête pour savoir pourquoi Madame Opic signait ainsi. Je dois dire que si on interroge le Grand Orient, on se fait renvoyer bien joliment et proprement. On vous dit, mais madame, qu'est-ce que vous voulez? Des tas de gens ont des signatures bizarres. À la Grande Loge de France, on est un peu plus aimable et on n'a pas pu m'aider beaucoup. Quelqu'un m'a dit que peut-être Jacques Opic, qui a fait partie de loge militaire dans sa jeunesse, a pu faire peut-être adopter, ça se pratiquait, semble-t-il, Baudelaire enfant et Madame Opic a pu procéder à une espèce d'adoption par une loge. Si c'est le cas, cela expliquerait que Madame Opic, à ma connaissance, utilise ce signe à partir de 1829. Les deux ou trois lettres que j'ai vues qui sont antérieures ne comportent pas ce signe. Voilà. Enfin, pour l'instant, c'est un mystère. C'est un peu irritant, je dois dire, parce que quand on a les originaux en permanence et qu'on est obligé, on est bien obligé de reproduire ce signe, on ne sait pas pourquoi. Et par ailleurs, elle le faisait de façon tellement courante que ça devait quand même bien correspondre à quelque chose. Alors, petite difficulté qui attend l'éditeur. Là, j'ai une lettre à Eugène Crépet datée du 25 août, enfin, environ 25 août 1859, dit Claude Péchois, parce qu'elle n'est pas datée. Alors, la petite difficulté que je voudrais vous signaler, c'est tout en haut à droite, vous voyez la mention, je ne sais pas si vous la voyez, tourner la page. Alors, ceci n'est pas indiqué par Claude Pichois, Jean Ziegler, ni d'ailleurs par Jacques Crépet. Cependant, cela fait partie de la lettre. Ça ne fait pas partie du message, mais ça fait bien partie de la lettre. Donc, il faut d'une manière ou d'une autre en rendre compte dans la transcription même. Alors, une correspondance génétique est intéressante dans le sens où elle permet de suivre la pensée en mouvement, la pensée en formation. Alors, c'est le cas ici, c'est le cas quand il y a des mots raturés qu'on peut lire sous la rature. On ne peut pas toujours, mais enfin, on le peut. Ici, c'est très simple. Baudelaire a écrit d'abord à Eugène Crépet « Soyez tranquille ». Et puis, il a trouvé que dire « Ne soyez pas inquiet » serait plus précis. J'arrive pas à montrer.
Ouais,
bon. Voilà, donc il a barré le tranquille. Aïe. Il a barré le tranquille. Voilà. Il a barré le tranquille. Et il a écrit ne devant soyez. Et il a ajouté pas inquiet au-dessus. Alors il a dit à Eugène Crépet de tourner la page. Alors on va faire comme Eugène Crépet. On va tourner la page. Et qu'est-ce qu'on voit? Une jolie majuscule à anglaise. À l'adjectif anglaise. Qui n'a pas lieu d'être, il n'y a aucune raison de mettre une majuscule à cet endroit-là. C'est vrai que Baudelaire parfois emploie des... que ce soit une minuscule ou une majuscule, c'est parfois un peu douteux, mais là, c'est visiblement une majuscule, surtout que vous avez un joli A minuscule en haut. Alors Baudelaire dit « Quand vous en serez à la littérature anglaise, je ferai en sorte de vous rembourser vos 260 francs, non par de la critique, mais par de la traduction pure. » Baudelaire se proposait de traduire Bertram de Maturin, et on sait l'admiration profonde que Baudelaire éprouvait pour la littérature anglaise et puis particulièrement pour Maturin. Donc on peut supposer que cette majuscule est une majuscule peut-être d'ordre affectif qui involontairement traduit un peu de cette admiration. Alors ici, je voulais simplement vous montrer, ce n'est pas très intéressant, mais qu'il y a une autre majuscule qui a priori n'a pas lieu d'être, qui n'a aucun caractère affectif, qui ne correspond à rien de particulier, je suppose. L'éditeur, a priori, est censé reproduire tout ce qu'il voit. Vous voyez aussi que mon cher Crépet n'est pas pourvu d'accent aigu. Tant la Pléiade que Jacques Crépet harmonisent, rétablissent, si vous voulez, ce genre de petites fautes sans même les signaler, parce que c'est microscopique. À partir du moment où on veut faire une édition aussi proche que possible des originaux, on est bien obligé, je crois, de s'attacher à ce genre de détails, aussi minimes soient-ils. Alors, ici, c'est la suscription de la lettre précédente. Nous avons la chance de pouvoir reproduire autant de manuscrits que nous le désirons. Et puis, dans cette édition électronique, nous avons une place réservée aux souscriptions et aux enveloppes. Donc, c'est bien utile. Alors que dans une édition classique, évidemment, les souscriptions ou les mentions qui figurent sur les enveloppes avec les indications données par les timbres, par les cachets postaux, etc., tout ça est donné en notes. Jacques Crépet avait eu une autre façon de résoudre le problème. Il donnait la souscription, vous voyez, en haut à gauche, entre crochets. Il indiquait la souscription. Il a fait ça systématiquement durant toute sa correspondance. Alors ici, c'est un problème qui, me semble-t-il, apparaît quand on connaît l'orthographe, mais qui n'apparaît pas du tout à la lecture de la lettre telle qu'elle est éditée dans la Pléiade ou chez Jacques Crépet. C'est une lettre adressée à Narcisse Ancel, datée du 21 décembre 1865. Et vous pouvez voir, alors ce dont on ne se doute pas en lisant les éditions successives de cette lettre, voilà. Vous pouvez voir là, enfin je ne vais pas montrer, mais vous voyez que l'espace considérable qui est laissé entre jeudi 21 décembre 1865 et le début supposé de la lettre, l'appellation « mon cher Ancel ». Baudelaire n'a pas l'habitude de laisser autant d'espace, et en vérité il n'y a aucune raison de laisser un tel espace. Le paragraphe que vous voyez au-dessus du grand trait, c'est en principe, c'est la fin de la lettre. C'est ainsi que Jean Ziegler, Claude Pichois et Jacques Crépet l'ont publié. Il n'y a pas de raison de mettre en doute cet ordre de la lettre tel que ces grands éditeurs l'ont établi. Néanmoins, la vue de l'autographe, je trouve, pose quand même un petit problème. Alors, je finis avec le plus intéressant à mon sens, c'est-à-dire les mots raturés qui sont lisibles sous les ratures et surtout qui semblent significatifs soit d'un mouvement affectif, soit de l'évolution de la pensée. Alors ici, nous sommes devant une page de la lettre du 6 mai 1861, la très grande lettre écrite à Madame Aupic dans laquelle Baudelaire revient sur toute son existence. Et le passage sur lequel je voudrais attirer votre attention, si j'arrive à le faire, voilà, c'est ici, hein, c'est les mots raturés ici. Alors Baudelaire dit, ça c'est le détail agrandi, mais je voudrais d'abord vous montrer ça ici. Baudelaire dit « J'ai 40 ans et je ne pense pas au collège sans douleur ». Ça c'est ce qu'il a écrit finalement. Mais il avait d'abord écrit, je vais vous montrer le détail, il avait d'abord écrit « J'ai 40 ans et je ne pense pas ». Non, je dois revenir en arrière parce qu'on ne voit pas. Excusez-moi. Donc, où je suis là? Je suis ici. Donc, j'ai 40 ans et je ne pense pas au collège et à, barré, et à quoi, on ne sait pas, et à, sans. Alors, avant de finalement choisir douleur, Baudelaire a écrit terreur et horreur. Voilà, il a écrit terreur, biffé, après, il a écrit horreur, et au-dessus, il a finalement choisi douleur. Ces trois substantifs correspondent visiblement à l'impression qu'il retient de ses années de collège, avec une gradation et une volonté de précision. Dernier détail intéressant, dans cette même lettre du 6 mai 1861, et j'en aurai terminé, Baudelaire écrit à sa mère, Mais attendez, il faudrait que je trouve. Je voudrais, voilà, c'est à partir de là. Hein. Si, je ne sais pas si vous arriverez à suivre. Je voudrais, en un mot, que toute somme ne fût payée qu'après ton consentement, après mûr débat entre toi et moi, en un mot, que tu devinsses mon vrai conseil judiciaire, souligné, mon vrai conseil judiciaire, et il ajoute, peut-on être obligé d'associer une idée aussi horrible à l'idée si douce d'une mère ? Donc, avant d'écrire que tu devinsses mon vrai conseil judiciaire, Baudelaire a écrit que tu demeures mon vrai conseil judiciaire. Et cette rature n'a pas été, je dois dire, vue par les éditeurs de la Pléiade. Il faut dire qu'ils ne disposaient pas d'ordinateur et de procédé d'agrandissement. Et que Baudelaire rature tellement que je crois qu'on pourrait éditer indéfiniment sa correspondance et découvrir toujours de nouvelles choses. J'ai beaucoup hésité avant de lire Demeure, mais je ne pense pas me tromper. J'ai hésité à cause de cette lettre, qui est un R, et qui... Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà. Qui est un R... Non, ben je voulais... Ah bon. Je croyais que j'avais un détail... c'était encore agrandi, je ne l'ai pas. Bon.
Et là, là...
Mais le voilà. Vous avez un R, après, vous avez exactement le même R. Enfin, dans la lettre, si vous comparez lettre par lettre, vous finissez par reconstituer sans trop d'erreur le mot. Alors, c'est vraiment significatif, parce que Baudelaire était dans la réalité doté d'un conseil judiciaire à deux têtes. Un conseil judiciaire qu'il refusait, enfin, auquel il voulait refuser sans prendre de mesures. Enfin, il n'a jamais essayé de se défaire de façon légale de sa tutelle, mais il a beaucoup protesté contre la tutelle d'Ancel et l'intrusion d'Ancel dans sa vie. En revanche, la tutelle maternelle, c'était une tutelle non seulement qu'il acceptait, mais voire qu'il revendiquait. Il y a une lettre qu'il a écrite dans les années 1850, pendant que Madame Opic était à Constantinople, où Madame Opic lui envoyait de l'argent sans, dit-il, lui prescrire l'emploi qu'il devait faire de cet argent. Et comme Madame Opic refuse à ce moment-là de correspondre avec lui, Baudelaire lui écrit la somme de redevenir immédiatement une mère et de lui dire à quoi exactement elle veut qu'il emploie cet argent. Ce que je veux dire, c'est que des injonctions de ce genre, il y en a un certain nombre dans la correspondance de Baudelaire, et vraiment, Baudelaire non seulement acceptait cette tutelle, quel que soit son âge, mais en plus, il la voulait, il la réclamait. Donc, Madame Opic était vraiment son conseil judiciaire, de façon privée, et là, en 1861, Baudelaire projette de se débarrasser, d'une certaine façon, d'Ancel. Et il voudrait que les choses, au lieu de se traiter à trois, ne se traitent plus qu'entre Madame Opic et lui. Donc cette rature est véritablement intéressante et significative. Voilà. Bon, comme néanmoins Ancel était son conseil judiciaire, c'était logique d'écrire de rature et demeure et d'écrire finalement de vase. Voilà. Donc je vous remercie. C'est tout ce que j'avais d'autres exemples à vous proposer, mais je crois que ça aurait été un peu beaucoup.
Merci à tous les trois. On va commencer à nous guider dans le labyrinthe de la correspondance. Alors, y a-t-il des questions, des remarques ? Je vais commencer. Alors, je m'interrogeais en vous écoutant sur le style de la correspondance de Baudelaire. Cette question s'adresse à nos trois intervenants, mais à tous les lecteurs de la correspondance. Est-ce que vous avez été frappé par des traits saillants de l'écriture de Baudelaire, dans l'usage des images, la construction des phrases ? Est-ce que Baudelaire épistolier, il est différent de Baudelaire critique, Baudelaire écrivain, évidemment.
Peut-être juste rapidement.
Quand tu as abordé la question du morceau de bravoure, évidemment, on voit le jeune Baudelaire qui s'exerce.
Voilà, et dans toutes les lettres à son grand frère, il y a la volonté de faire le grand. Au prix de la réutilisation de contenu un peu scolaire Et ce qui donne aux lettres à son frère une tonalité assez particulière qui dure jusqu'en 1841 parce qu'il essaye à chaque fois de maintenir une relation grande, intime.
Oui, il y a des tours affectifs.
Oui.
Et dans les lettres à sa mère aussi, je suppose. Tu parlais de l'injonction, il somme sa mère, donc on est dans le ressenti.
Souvent, c'est des lettres très très passionnées. Des lettres, il y a des déclarations d'amour à l'unissante qui sont. Qui d'ailleurs sont quasiment les mêmes qu'il soit enfant ou qu'il ait 45 ans. Des véritables déclarations d'amour. Donc c'est très. Là, il y a parfois, mais pas toujours, parce qu'il y a souvent des billets où simplement il lui dit, il veut lui expliquer que vraiment il a besoin de 60 francs, quelquefois c'est 200 francs, quelquefois c'est 1500 francs, c'est énorme. Hein. Mais il veut, et il est là aussi, fin manœuvrier, il ruse un peu. Il est à la fois très sincère, mais en même temps, il est assez rusé. On ne sait pas trop quand il explique à sa mère pourquoi elle en est arrivée là, alors qu'elle lui avait déjà avancé beaucoup d'argent. Parce que Mopi, elle proteste, mais elle donne de l'argent. Donc, c'est parfois très compliqué. Il imbrique des raisonnements avec des espèces de, je ne dirais pas parfois de chantage affectif, mais des éléments très affectifs. Tout ça est très, très, très imbriqué. C'est assez compliqué, et je pense que Madame Aupin devait avoir quand même du mal. C'était pas une femme assez ordinaire, hein, très éprise d'honorabilité, mais il faut voir aussi qu'elle avait été son parcours. Et c'était assez difficile. Ce qui frappe aussi dans ces lettres, c'est parfois la densité. Alors quand il y a les lettres confession, ce que j'appelle les lettres confession, elles ne sont pas toutes comme ça, mais il y en a quand même un certain nombre. Et ce qui frappe, c'est la volonté de descendre en soi, et il ne se contente jamais d'approximation. C'est vraiment une descente en soi qui l'opère. C'est là où, quand je parlais peut-être excessif d'exercice spirituel, mais malgré tout, c'est l'effet que ça donne. C'est tout à fait intéressant. Il ne se contentera jamais de rester à la surface.
Tu as utilisé le mot injonction qui a retenu mon attention, parce que Baudelaire utilise une rhétorique de l'injonction avec d'autres correspondants, par exemple. Avec Poulet-Malassi, on voit alors, au moment de la saisie des exemplaires des Fleurs du Mal, en juillet 57, juste avant le procès, il y a une lettre de Poulet-Malassi qui est dramatique. Vite, cachez, mais cachez bien toute l'édition. Vous devez avoir 900 exemplaires en feuille. Voilà ce que c'est d'envoyer des exemplaires au Figaro. Voilà ce que c'est de ne pas vouloir lancer sérieusement un livre. Ne bavardez pas. N'effrayez pas Madame votre mère non plus que de Broise et venez vite pour nous entendre. Est-ce que quelqu'un veut rebondir?
Moi, Aurélie, excuse-moi, j'ai deux remarques à faire. Alors, oui, la première sûr. D'ordre général sur la correspondance, sur l'édition de la correspondance, parce que je trouve justement aussi, en vous écoutant, que vous avez aussi montré la particularité d'éditer une correspondance. C'est différent d'éditer les œuvres de Baudelaire publiées, parce qu'il s'agit chaque fois de textes qui n'étaient pas destinés, bien sûr, à la publication. Donc ça relève plutôt de la publication de brouillons ou d'ébauches, et même le fait que les particularités, les difficultés de reproduire certaines formes, non, anneaux de la page, comme celle que tu as montrée, c'est parce que Baudelaire ne destinait pas ses manuscrits, justement, à la publication. Donc, alors que là, avec les outils numériques, nous pouvons en effet reproduire ce qui n'était pas à l'origine, ne se destinait pas à être reproduit dans l'imprimé. Et puis, je voulais aussi, pour finir d'accabler Claude Pichoy, non, je plaisante, mais je voulais moi aussi montrer une autre lettre, j'avais passé tout à l'heure, parce que une lettre bien connue, un destinataire inconnu, je le fais aussi, je profite aussi de la présence de Pierre Brunel, avec qui j'avais déjà discuté de cette lettre. Donc c'est une lettre de Baudelaire à un destinataire inconnu de 1849. On sait bien que c'est une période qui nous reste assez méconnue, on a très peu de documents de cette époque. Je pense qu'il y a juste deux lettres datant de 1849 de Baudelaire. En tout cas, il s'agit de la première occurrence sous la plume de Baudelaire du de Wagner. On s'est interrogé longtemps de ce musicien qui recommande à ce destinataire, donc inconnu, qui devait être le directeur d'un journal. Donc, on a pensé qu'il devait s'agir de Robert Schumann. Alors, c'est intéressant de voir, je crois, comment même la pulsion, je crois, de Claude Pichois de montrer que ça pouvait effectivement être Schumann, chose que moi aussi, finalement, je crois, avec, je pense, Pierre Brunel, l'a poussé à corriger la graphie du manuscrit. Parce que, vous voyez bien, alors, la deuxième ligne, il écrit, Claude Pichois, c'est une prise de photo de la page de la Pléiade, il écrit Schumann, avec C, non ? S-C-H. Et si l'on voit le manuscrit, chaque fois que ce musicien est mentionné, il n'y a pas de C, jamais. C'est bien SH à chaque fois. Et c'est très curieux que Pichois corrige le manuscrit.
On a cherché dans la presse comment était orthographié le nom de Schumann à l'époque.
Oui, le problème c'est qu'à l'époque, Schumann alors apparaît quelquefois dans la presse de l'époque, mais c'est vraiment assez tôt. Alors, il y a tout, je n'entre pas dans les problèmes d'attribution interprétatif. Vous voyez d'ailleurs que c'est bien SH. Alors, on hésite à la lecture entre E et O. U semble plus difficile à lire. Probablement, alors, ce qu'on se dit, probablement, c'est que Baudelaire avait seulement entendu le nom. Donc, il, tout simplement, il l'orthographiait comment, voilà, à ce qu'il avait entendu. Alors, je fais remarquer deux autres choses à part celles importantes qui concernent le nom de Schumann. C'est que, d'une part, il n'y a pas de mots ou de phrases soulignées, alors que dans la transcription de Claude Pichois. Alors, Claude Pichois, je pense qu'il n'avait pas vu le manuscrit. En réalité, il avait... Il s'était servi de la transcription de Jacques Crépé. Mais il y a, vous voyez, les noms sont soulignés, sont en italique. Alors, au-delà de la coquille là en bas, donc on se disait en effet qu'il y a des coquilles même dans la Pléiade. Et troisième chose curieuse, c'est que dans le manuscrit, la date semble être bien 12 juillet 1849. Et dans la Pléiade, on ne sait pas pourquoi, la date est devenue le 13 juillet 1849. Donc même une lettre aussi importante qui pose des problèmes d'interprétation, et on a une transcription dans la Pléiade qui n'est pas fiable, oui, qui est franchement fautive. Cela dit, on sait bien, tous ceux qui travaillent sur l'édition, on sait bien comment c'est facile de laisser des coquilles et de mal transcrire même.
C'est très difficile.
C'est très compliqué, oui. Ne faut pas.
Et puis quelquefois, on s'imagine qu'on ne va pas faire d'erreur parce que ce sont des lettres qu'on a vues et revues pendant des années. Et à force d'avoir le nez dessus, on finit. Il faudrait qu'il y ait des gens qui relisent. C'est difficile, vraiment.
C'est l'avantage du numérique et de la publication des manuscrits. C'est qui permettra une vérification aussi de la part des lecteurs et de tous ceux qui... et on pourra corriger au fur et à mesure. Mais bon, je ne veux pas monopoliser. Donc, s'il y a des questions, en effet, aux intervenants...
Baudelaire mettre une majuscule en adjectif à la fin de la phrase, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point non plus. Enfin, c'est difficile à voir, mais il n'y a pas d'accent sur Crépé, il n'y a pas de majuscule où il n'en faut pas, et il n'y a pas de point. Puisqu'on a le manuscrit, c'est plus la peine de le signaler. On peut le voir dans le manuscrit. Hein.
Normalise.
Je trouve que c'est la question inverse. Ça vaudrait plus d'avoir une édition diplomatique si on n'avait pas le manuscrit, pour qu'on se rende compte de ce que c'est que le document. Et puisqu'on l'a en image,
mais alors les ratures,
c'est
difficile.
Ah oui, non, mais ça, les ratures, il faut les signaler, c'est sûr. Mais je trouve que tout ce qui est... avec Hugo, il y a toujours le problème, il ne met jamais de majuscule, quasiment. Les Anglais, enfin, c'est un substantif, Hugo ne met jamais de majuscule à Anglais, ou même à n'importe quel peuple, c'est le préféré. Bon, il ne met pas de majuscule en tête de phrase presque jamais. Si on commence comment ça a transcrit comme ça. C'est
oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est vrai que c'est difficile quand on est obligé de prendre, d'opérer, de faire des choix. Et là, excusez-moi de revenir sur moi, mais quand je parlais du corpus de lettres sur Baudelaire auquel je travaille actuellement, bon, j'essaie de reproduire ce que je vois, mais quand les phrases commencent par une minuscule, ça devient illisible pour le lecteur. Donc là quand même. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même de prendre sur soi, de se dire, je vais quand même. Parce que, ou bien on normalise, on harmonise, comme Claude Pichot et Jean Dibler le fait, parce que d'ailleurs, la Pléiade leur avait imposé je pense que la signature en petit capital, ce n'était pas quelque chose qu'ils avaient décidé. Je crois bien que c'était la Pléiade qui leur a
imposé. La Pléiade nous l'a imposé aussi pour la Pléiade de Rimbaud.
Bon, voilà.
Mais,
c'est leur usage.
Mais par exemple, je réfléchissais justement à ton exemple. Je pense qu'on peut agrandir le caractère dans la transcription. Ouais. Eh bien, on peut rendre compte de manière presque spéculaire. On n'a pas, c'est pas comme imprimer.
Ouais, hein.
Ensuite, il faut voir les lignes.
Tu démultiplies le protocole. Ouais.
Mais nous, on est là pour créer de nouveaux. Et l'autre chose, je me disais, alors, les deux exemples, on va réfléchir de toute manière à la question aussi avec Richard Walter qui m'avait dit qu'il aurait été là. Mais que je ne vois pas. Peut-être qu'elle arrivera pour le pot. Et je pensais à la question de Anglaise et Landy. Et je ne pense pas qu'Anglaise soit affectif. Hein. Je pense que la graphie était quand même encore assez fluctuante à l'époque.
Ouais.
Oui, parce qu'en plus, Baudelaire qui travaillait sur l'anglais lui-même.
Ouais.
Et là, on l'écrit avec une majuscule. Ouais. Je pense que c'est un peu comme Landy, hein, c'est la même chose. En réalité, à l'époque,
oui,
et même Baudelaire souvent écrit les jours de la semaine.
Et en plus, c'est une lettre, donc ce n'est pas quelque chose destiné à être lu.
Il faudrait voir les usages dans les lettres
d'autres
écrivains de la même époque. Alors là,
mais anglais, ce n'est pas étonnant, c'est parce qu'encore aujourd'hui, je dirais, il y a pas mal de personnes qui écrivent les adjectifs comme s'il s'agissait de substantifs.
Et je voudrais quand même répondre à Jean-Marc Ovas, parce qu'en fait, il me semble, mais c'est vrai, ce que vous dites est parfaitement vrai, évidemment, mais. Si on prend sur soi de se dire, ou bien on a un procès, on harmonise selon un code qui vient de, je sais pas, des collègues, de la Pléiade, je sais pas où. Bon. Mais si on se dit, je vais faire une édition génétique et je vais reproduire ce que je vois au maximum, dans la mesure du possible, ce n'est jamais complètement possible. À ce moment-là, ça veut dire que je vais, moi, décider que je ne vais pas reproduire telle marque et que je vais dire que telle marque est insignifiante et telle autre ne l'est pas. Et ça pose un problème parce que ce qui pour moi est insignifiant ne le sera pas pour vous ou pour quelqu'un d'autre ou pour un lecteur du futur. C'est quand même un peu embêtant. Alors c'est pour ça que personnellement je préférerais même dans la transcription même si...
Mais c'est ce que tu as fait dans ton édition. As utilisé, si je peux dire, une diplomatie modérée. C'est-à-dire... Tu as essayé de respecter. Alors là, par exemple, je vous voyais tout à fait par hasard également, il y a une virgule à la fin, et après le mot minuscule, et la Pléiade a dû imposer la majuscule à E. Donc même sur des choses où... moi, je suis aussi un peu plus diplomatique. Je me range un peu, étant donné que le numérique... Alors, en même temps, c'est un gros boulot, hein, parce que... On nous montrait en effet ce qu'il faut faire pour signaler parfois des ratures sophistiquées. Et il faut alors là entrer normalement dans des codes.
C'est compliqué. Ça me faisait penser au laboratoire Hopville. Il y a un projet de publication, de mise en ligne des cahiers de Valéry en respectant y compris l'inclinaison des phrases. Et ça obligeait l'ingénieur de Hopville à créer pour chaque phrase un style différent, et ils ont fini, alors je ne sais pas où ils en sont, mais ça, c'était des heures et des heures d'ajustement pour un résultat compliqué, parce que il faut au bout du compte que tous les styles mis en place soient respectés par la feuille de style du site qui au bout du compte est le logiciel qui permettra la publication. Ce qui fait que je ne sais pas si on a intérêt à démultiplier, mais je suis un peu de votre avis, à démultiplier les styles et les polices.
Mais je pense que Jean-Marc Ovas a raison dans la mesure aussi où la tentation du généticien est borghésienne. C'est-à-dire, c'est celle de reproduire le manuscrit Parce que tout peut devenir objet. Par exemple, même une écriture légèrement, je ne sais pas, destrogir ou une écriture hâtive peut devenir l'objet. Alors, il faut reproduire ça. Il faut faire un caractère particulier. Alors là, on reproduit le manuscrit tel quel. C'est vrai. Hein.
Et du coup, attendez-moi, je suis en train de m'occuper des lettres de collégiens et les fautes d'orthographe, on sait quoi.
Donc on les reproduit et on les signale.
Et on les signale.
Voilà.
Mais on a décidé de faire ça.
On les reproduit. La Pléiade les indique en notes.
Oui, les normalise, le texte.
Mais c'est vrai que la présence de l'image à côté du texte.
La visibilité est quand même une question importante. Oui. Enfin, pour le projet de Rouet, qui fait des fautes, pas énormément, mais qui en fait, qui ne ponctue pas.
En ligne.
Ouais. Je trouve que c'est une bonne solution parce que ça. Enfin, la limite, quand même, pour Gédro, c'est la ponctuation parce que là, on ajoute, minimal, mais on ajoute quand ça devient incompréhensible. Mais là, c'est vraiment une subjective. Ça devient très vite subjectif, cette question de la ponctuation. Bon, là, c'est un problème qui ne se pose pas. Merci. Mais pour les fautes d'orthographe, j'avoue, et pour tous les accidents, en fait. Aussi fait énormément de passages en gros. La même question. Et tout ça en...
Et alors, si elle rature et qu'on lit sous la rature, qu'est-ce qu'on fait ? En ce moment, pour jouer la drogue.
Oui, mais là, pour jouer la drogue, c'est un problème à la rature. On avait fait tout un protocole avant de commencer. Donc après, moi, je défendais qu'il fallait qu'on voit les ratures. Elles ne sont pas du tout signalées. Tout ça, ça reste. Voilà, c'est l'important de commencer par avoir un protocole très ferme au début, parce qu'après, c'est trop tard. On a commencé à en mettre en ligne.
Oui, enfin, oui.
Climat,
enfin, voilà.
Pensez, c'est pas Baudelaire. Mais là, je pense qu'il faut vraiment écrire des ratures. C'est très important.
Alors, c'est vrai que quand on m'a demandé le travail pour Manutius, les éditeurs souhaitaient que ce soit un texte différent visuellement de la Pléiade. De toute façon, ça m'arrangeait bien, puisque moi, je trouvais assez intéressant de reproduire dans le corps du texte les mots raturés lisibles sous la rature. Néanmoins, bon, je l'ai fait parce que j'ai commencé à travailler et je sais ce que j'essayais de faire. Mais je me suis.
Il n'y a pas les manuscrits, de toute façon, il n'y a pas les manuscrits reproduits dans l'édition.
Ah non, non. Il y a quelques exemples. Non, ce n'est pas diplomatique. Mais bon, je l'ai fait, puis après avoir terminé, quand ça a été imprimé, j'ai vu le livre, je me suis mise à la place de quelqu'un qui n'avait jamais lu ses lettres, qui ouvrait le livre et qui voyait ses ratures, ses mots, etc. Et je me suis dit, mon Dieu, si jamais cette personne voulait citer une phrase avec ses mots raturés, etc., c'est vrai que ça ne facilite pas son travail. Donc là, pour le coup, c'est bien qu'il existe plusieurs éditions.
Mais André Guyot fait la même chose pour la première fois pour les fragments posthumes. Il a choisi d'indiquer les ratures. Mais c'est vrai, là aussi, je pense quand même que la nature, ce ne sont pas des textes publiés par Baudelaire. Et donc, ça encourage aussi l'inclusion des... Mais Jean-Marc, tu as raison en disant que lorsqu'on publie le manuscrit, le problème se pose de manière différente. Parce qu'on est censé avoir sous les yeux le...
Il faut se reporter au manuscrit. On cherche au fond un texte de référence qu'on va pouvoir citer dans un article, un chapitre d'ouvrage.
Il y a d'autres questions ou des observations.
Mais si on ne publie pas le manuscrit, c'est qu'on ne l'a pas eu sous les yeux.
Oui, le problème, c'est qu'on n'aura pas tous les manuscrits. Hein.
Oui, ça, c'est loin de là. Alors, mais on n'aura pas non plus les ratures. Si,
hein.
Sauf si on les prend de la
oui,
Pléiade.
Ça, on les prend dans la Pléiade.
Oui. Oui, mais les ratures, en tout cas, on va les mettre. Ensuite, la question, c'est vrai que la question de... Mais on en avait un peu déjà discuté, là, je ne veux pas faire... Il faut, je pense, rester dans la modération, ce qu'on s'était dit. C'est-à-dire pas arriver aux extrêmes d'une édition comme celle-là de Valérie que tu as évoquée, mais rendre compte de... Moi, je mettrais quand même dans le... Comme tu dis, dans le texte, les ratures. Les majuscules, c'est à étudier, hein, parce que surtout chez Baudelaire, on a vu bien, et même dans les manuscrits de poèmes, pas seulement.
Et là, c'est important.
Baudelaire, oui, les multiplie parfois. Déjà, à l'époque, on en mettait plus qu'aujourd'hui, plus facilement, alors que l'Académie, aujourd'hui, recommande une modération. Et ensuite, Baudelaire, oui...
Mais dans les manuscrits de poèmes, ça peut se référer à des allégories.
Ah, bien
donc,
sûr,
là,
ça,
là, c'est crucial de mettre ou de ne pas mettre. Enfin, je veux dire, c'est...
Oui. Alors, le problème, c'est quand on voit que ce n'est pas une allégorie. Parce qu'il y a aussi des majuscules...
Baudelaire, c'est pas forcément une majuscule.
Non, ou les S, par exemple, ouais, parfois, ouais. Comme tu sais... Ouais. Comment, on ne comprend pas si c'est une majuscule ou pas. Parce qu'ils sont écrits différemment, minuscules et majuscules. Non, elles sont... Mais la dimension est très petite parfois. Donc on se dit c'est une majuscule petite. Compliqué.
Et pour les notes, comment vous faites dans le projet?
On a fait deux systèmes, donc les chiffres pour les notes explicatives et les lettres pour les notes manuscriptologiques.
Et elles sont accrochées aux mots?
Oui.
Comme dans la Pléiade, en réalité.
Oui, tout à fait.
Et ça fonctionne comme là, il y a hypertexte ou c'est...
Elles apparaissent en bas de page.
Elles apparaissent
en bas de page. Et nous, ça prend.
Parce que nous, enfin... Et compris pour les variantes. Donc, moderniser
en
graphe.
C'est aussi avec les
pictures.
Ça apparaîtra en bas de page pour nous.
En bas de page, mais pour l'instant, on n'a pas mis de notes encore explicatives.
Non, parce qu'a priori, on n'a pas besoin de notes de manuscrit. Puisqu'on les...
Ben, en tout cas, non, pour les... Oui,
non,
si on les rature, si on les met dans le... Oui, ça nous épargne. Mm. Ensuite, c'est à voir, parce qu'il y a tellement d'exceptions que l'exception devient la règle. Non, ce que tu as dit...
Finir partout et écrire à la main.
Ou simplement publier les manuscrits et la transcription.
Photographier la
couleur. On la laisse... Bon, je...
Si vous n'avez pas d'autres remarques, on peut se séparer. On se retrouve le 18 avril et on recevra Jean-Luc Steinmetz qui nous parlera de l'édition des Paradis.